Aristote, Rhétorique, livre 2, chapitre 4. Quelle sorte de personne on aime et l'on hait ? Pour quel motif ? 1. Quels sont les gens qu'on aime et que l'on hait ? Quels sont nos motifs pour avoir ces sentiments ? Nous avons à l'expliquer après avoir défini l'amitié et ce que c'est qu'aimer. 2. Aimer, ce sera vouloir pour quelqu'un ce qu'on croit lui être un bien, eu égard à son intérêt et non au nôtre, et le fait de se rendre capable en puissance de réaliser ce bien. Un ami, c'est celui qui a de l'affection et qui reçoit de l'affection en retour. On pense être des amis quand on suppose avoir ces dispositions les uns pour les autres. 3. Cela posé, il en résulte nécessairement qu'un ami est celui qui prend sa part de joie dans ce qui nous est bon et sa part de chagrin dans ce qui nous afflige, non pas en vue de quelque autre intérêt, mais eu égard à la personne aimée. En effet, toujours on se réjouit de l'accomplissement de son désir et l'on s'afflige d'un résultat contraire. Si bien que les peines et les plaisirs sont des signes de notre volonté. 4. Il y a encore amitié entre ceux pour qui les biens et les maux sont communs et qui ont les mêmes amis et les mêmes ennemis, car il s'ensuit nécessairement qu'ils sont dans les mêmes intentions à leur égard, de sorte que celui qui souhaite à un autre ce qu'il se souhaite à lui-même se montre l'ami de cet autre. 5. On aime encore ceux qui nous ont fait du bien à nous-mêmes ou à ceux auxquels nous portons intérêt, soit que le service rendu soit important ou ait été rendu avec empressement ou dans certaines circonstances de telle ou telle nature, et directement à cause de nous. De même, ceux à qui nous prêtons l'intention de nous rendre service. 6. Les amis de nos amis et ceux qui affectionnent ceux que nous affectionnons nous-mêmes et ceux qu'affectionnent les personnes que nous aimons. 7. Ceux qui ont les mêmes ennemis que nous et ceux qui haïssent ceux que nous haïssons nous-mêmes et ceux que haïssent ceux que nous haïssons. En effet, pour toutes ces sortes de personnes, les biens paraissent être les mêmes que pour nous. Par conséquent, l'on veut notre bien, ce qui était tout à l'heure le propre de l'ami. 8. Ajoutons-y ceux qui sont disposés à rendre service, soit dans une question d'argent, soit pour sauver quelqu'un. Voilà pourquoi l'on honore les cœurs généreux et les braves. 9. De même les hommes justes. Or, nous supposons doués de cette qualité ceux qui ne vivent pas aux dépens des autres. Tels sont ceux qui vivent de leur travail et, parmi eux, ceux qui vivent de l'agriculture et parmi les autres, principalement ceux qui travaillent de leurs mains. 10. De même, les gens tempérants, vu qu'ils ne sont pas injustes, et pour la même raison, ceux qui évitent les litiges. 11. Ceux avec qui nous voulons lier amitié, si nous voyons qu'ils ont la même intention à notre égard, sont de ce nombre et les gens dont le mérite consiste dans leur vertu, et les personnes qui jouissent d'une bonne réputation, soit dans le monde en général, soit dans l'élite de la société, soit encore parmi ceux que nous admirons ou qui nous admirent. 12. De même, ceux dont le commerce et la fréquentation journalière sont agréables. Tels sont les gens faciles à vivre et qui ne cherchent pas à nous trouver en faute, qui n'aiment pas les discussions ni les affaires, car ces derniers sont d'un caractère batailleur. Or, ceux qui bataillent avec nous manifestent des volontés contraires aux nôtres. 13. Tels sont encore les gens d'assez d'esprit pour savoir manier la plaisanterie et pour bien la prendre, car les uns et les autres tendent au même but que leur interlocuteur, étant en état d'entendre une plaisanterie et de lancer eux-mêmes des plaisanteries de bon goût. 14. On aime encore ceux qui font l'éloge de nos bonnes qualités et principalement de celles que nous craignons de ne pas avoir. 15. Ceux qui sont soigneux dans leur personne, dans leur toilette et dans tous les détails de la vie. 16. Ceux qui ne nous reprochent pas nos fautes ni leurs bienfaits, car ces reproches sont autant d'accusations. 17. Ceux qui n'ont pas de rancune et ne gardent pas le ressentiment des griefs, mais qui sont portés à la conciliation, car cette disposition dans laquelle nous les voyons à l'égard des autres, nous croyons qu'ils l'auront à notre égard. 18. Ceux qui ne sont pas médisants et qui ne savent rien de ce qu'il y a de mauvais dans les affaires du voisin ou dans les nôtres, mais plutôt ce qu'il y a de bon, car c'est ainsi que se comporte un homme de bien. 19. De même, ceux qui ne font pas d'opposition aux gens en colère ou très affairés, car cette opposition est un trait de caractère propre aux batailleurs. Nous aimons aussi ceux qui, d'une façon ou d'une autre, s'occupent de nous, comme par exemple ceux qui nous admirent, ceux qui sont empressés auprès de nous, ceux qui se plaisent dans notre société. 20. Citons encore ceux sur lesquels nous avons fait le plus d'impression par les côtés où nous tenons particulièrement à être admirés nous-mêmes, ou paraître avoir de l'importance, ou nous rendre agréables. 21. Nous aimons nos pareils et ceux qui poursuivent les mêmes études que nous, pourvu qu'ils ne nous entravent pas et que notre subsistance ne dépende pas de la même occupation. Car, s'il en est ainsi, c'est le cas de dire « potier contre potier ». 22. Ceux qui ont les mêmes désirs que nous lorsqu'il nous est loisible d'avoir part à leur satisfaction. Autrement, ce serait encore le même cas. 23. Ceux à l'égard desquels nous sommes dans une disposition telle que nous ne rougissons pas devant eux de ce qui est contre nous, en apparence, sans avoir néanmoins du mépris pour eux, et ceux devant qui nous rougissons de ce qui est réellement contre nous. 24. Quant à ceux qui stimulent notre ambition, ou chez qui nous voulons exciter l'émulation, sans devenir pour eux un objet d'envie, nous les aimons, ou bien nous tenons à nous en faire des amis. 25. De même, ceux avec lesquels nous coopérons à une bonne action, pourvu qu'ils ne doivent pas en résulter pour nous des maux plus graves. 26. Ceux qui donnent une égale affection, que l'on soit absent ou présent. Voilà pourquoi tout le monde aime ceux qui ont cette constance envers ceux de leurs amis qu'ils ont perdus. On aime en général ceux qui aiment vivement leurs amis et qui ne les abandonnent pas. Car, entre tous les gens de mérite, ce sont ceux qui ont le mérite de savoir aimer que l'on aime le plus. 27. Ceux qui sont sans feinte avec nous. À cette classe appartiennent ceux qui nous découvrent leur côté faible. En effet, nous avons dit que, devant nos amis, nous ne rougissons pas de ce qui est contre nous en apparence. Si donc celui qui en rougit n'aime point, celui qui n'en rougit point ressemble à quelqu'un qui aimerait. De même, ceux qui ne donnent aucun sujet de crainte et sur qui nous pouvons nous reposer, car nul être n'aime celui qui inspire de la crainte. 28. Quant aux diverses formes de l'amitié, ce sont la camaraderie, la familiarité, la parenté et toutes choses analogues à celles-là. 29. Ce qui nous porte à l'affection, ce sont la reconnaissance, un service rendu sans qu'on l'ait demandé et une fois rendu, non divulgué. Autrement, on donne à croire qu'il a été rendu dans un intérêt personnel et non dans l'intérêt d'un autre. 30. Au sujet de l'inimitié et de la haine, il est évident qu'il faut tourner dans le sens opposé les considérations qui précèdent. Ce qui nous porte à la haine, ce sont la colère, la vexation et la médisance. 31. La colère a son origine dans ce qui nous touche personnellement, tandis que la haine est indépendante de ce qui se rattache à notre personne. Et en effet, il suffit que nous lancions telle imputation contre un individu pour que nous le prenions en aversion. De plus, la colère s'attaque toujours à telle personne en particulier, par exemple à Callias ou à Socrate, tandis que la haine peut atteindre toute une classe de gens. Ainsi, chacun de nous a de l'aversion pour le voleur et le sycophante. L'une de ces passions peut guérir avec le temps, mais l'autre est incurable. L'une cherche plutôt à causer du chagrin, et l'autre à faire du tort. L'homme en colère veut qu'on sente son action, tandis que, pour celui qui a de la haine, ce point est sans importance. Or, tout ce qui est pénible affecte notre sensibilité, tandis que les plus grands de tous les maux sont, en même temps, ceux dont on a le moins conscience, je veux dire, l'injustice et la démence. En effet, la présence d'un vice ne cause aucune douleur. De plus, l'une, la colère, est accompagnée de peine, et l'autre, la haine, ne l'est pas. Car celui qui se met en colère éprouve de la peine, mais celui qui est, non. Le premier, à la vue de maux nombreux soufferts par son adversaire, pourrait être saisi de pitié, mais le second dans aucun cas. 32. On voit donc, d'après ce qui précède, qu'il est possible de démontrer le caractère amical ou hostile d'une personne lorsqu'il existe réellement, et, lorsqu'il n'existe pas, de le faire concevoir. Et, lorsque quelqu'un en proclame l'existence, de le détruire. Et, s'il y a doute pour savoir laquelle, de la colère ou de la haine, a été le mobile d'une action, de diriger l'auditoire vers la solution que l'on préfère.